Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour à toutes et tous, mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler draft et ça va chauffer. Aujourd'hui, on va parler de Washington, alors forcément, notre expert NFCS est là, surtout que son cousin joue dans cette équipe, Monsieur Victor Roulier. Bonjour Victor.
Salut, salut à tous. Ouais, j'aimerais que ça soit mon cousin Chase Roulier, mais bon, il est déjà devenu un beau titulaire en NFL, c'est déjà bien pour lui.
Donc, on va parler de la meilleure équipe NFC l'année dernière.
Ce qui NFCS, veut dire, NFCS, calme-toi.
NFCS, oui. Ce qui veut dire pas grand-chose, en fait, puisqu'ils ont terminé avec un bilan de 7 victoires et 9 défaites. Alors, ils sont quand même allés en play-off, éliminés au premier tour par les champions, par Tampa Bay. Du coup, Victor, sur quel axe tu les vois devoir progresser pour prétendre encore au titre de division en NFC Est?
Eh bien, la ligne offensive, déjà, pour moi, c'est la première priorité. Il va falloir faire quelque chose. Parce que globalement, la ligne a été meilleure qu'attendue. On s'attendait vraiment à une explosion l'année dernière. Et finalement, on a été assez agréablement surpris par les performances. Donc, je disais Chase Roulier, le centre, qui a été quand même particulièrement bon. Ils gardent notre cher ami Brandon Scherff, qu'ils ont tagué pour la deuxième fois d'affilée. Mais bon, il reste quand même des trous, quoi. Je veux dire, en garde gauche, en tackle gauche et en tackle droit, tu peux clairement améliorer ce que tu as aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà le premier besoin. Le deuxième, c'est quarterback. Alors, est-ce que ça sera adressé cette année ou l'année prochaine? C'est une autre question, mais aujourd'hui, on peut raisonnablement penser que titulaire va être Fitzmagic. Sauf que notre ami Fitzpatrick, c'est pas un projet long terme, hein, puisqu'il n'a pas 21 ans. Et qu'il va falloir trouver un successeur au grand, au légendaire Dwayne Haskins, qui aura laissé une empreinte vraiment indélébile sur l'histoire de la franchise. Le troisième besoin, c'est defensive back. Alors, principalement cornerback, pour être précis, puisqu'on en parlait avant l'émission, ils ont London Collins et Cameron Curl au niveau des safeties, donc c'est pas mal. Au niveau des cornerbacks, globalement, ça nécessiterait du renfort. Et on va y venir, c'est quelque chose que j'adresse assez rapidement. Et puis après, il y a les cibles. Les cibles, parce qu'aujourd'hui, McLaurin, il était un peu seul. Alors, il y a des renforts. Hein. Il y a du Curtis Samuel qui a été signé. Mais enfin, Curtis Samuel, c'est un gadget, c'est un joueur intéressant, mais c'est pas un vrai receveur numéro 2. Et puis, au niveau des tie-ends, pareil, ils ont pas particulièrement une grosse alternative là-dessus. Donc, je pense qu'il faut multiplier les cibles, parce que McLaurin, quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui, en étant la seule cible, et avec des quarterbacks, pardon, hein, mais moyens, voire moyens moins, imagine ce qu'il peut faire avec un vrai lanceur et d'autres cibles pour distraire les défenseurs. Ça peut être incroyable.
Ouais, effectivement. Mais là, du coup, avec le choix numéro 19, ça paraît quand même un petit peu trop tard pour prendre un bon quarterback à la draft. Donc, du
Ah,
coup,
c'est sûr.
avec le choix 19, tu penses plutôt à adresser la ligne offensive.
Exactement. Je pense à adresser une offensive. Et alors moi, vraiment, le joueur que je vois pour cette équipe, c'est Elijah Vera Tucker. Donc Elijah Vera Tucker de USC, qui était un guard, qui est passé tackle en 2020. Je crois pas qu'il était tackle avant. Et il nous a impressionnés. Globalement, on peut dire, hein, il venait un peu entre guillemets de nulle part. Et il nous a impressionnés. Il a montré qu'il avait l'adaptabilité suffisante. Il est constant en protection de passe. Il est excellent. Il a progressé au niveau du jeu de course. C'est sûr qu'en tackle, c'est pas un Liam Eikenberg qui va foncer dans le tas et faire tomber trois joueurs devant. C'est pas son style de jeu. Mais c'est un style de jeu. On va dire c'est un peu comme Rashawn Slater, où les gens se demandent est-ce qu'il est guard, est-ce qu'il est tackle, est-ce qu'il est à droite, est-ce qu'il est à gauche. Moi, je pense qu'Aija Vera Tucker, c'est vraiment tu prends zéro risque. Parce que potentiellement, tu as un Pro Bowl en tackle à gauche. Et si tu n'as pas un Pro Bowl en tackle, tu as un Pro Bowl en guard.
Oui,
Donc,
exactement. Ouais.
globalement, enfin, comme tu as un besoin sur les deux positions, autant prendre ce joueur-là, qui, quoi qu'il arrive, va te donner une value.
Effectivement. Moi, je pense que Vera Tucker, il pourra jouer tackle en NFL parce que il manque un poil d'envergure. Hein. On parle toujours de ces fameux bras pas assez longs, mais bon, ça va, quoi. Ça se joue vraiment à rien du tout. Et je pense qu'avec sa mobilité, il pourrait exceller à l'extérieur. Mais comme tu le dis, au pire du pire, il pourra glisser à l'intérieur et être un très bon guard. En parlant plus de Washington, je veux dire, tu parlais de Brandon Scherff. Il faut savoir qu'à l'université d'Iowa, il jouait tackle. Et ils l'ont drafté avec le cinquième choix de la draft, c'était pour jouer tackle. Et puis ils ont bien vu qu'en tant que tackle, c'était pas ça. Par contre, ils l'ont fait glisser à l'intérieur et c'est devenu un des meilleurs de la ligue. Donc du coup, effectivement, Elijah Vera Tucker, tu le prends et tu prends pas de risque en fait. Donc sur ce premier choix, moi je te propose même pas d'alternative. C'est un choix qui me paraît le plus séduisant.
Non,
Du
mais je
combat,
pense que,
ouais.
tu vois, enfin, c'est un Morgan Moses à droite, ça reste, on va dire, correct. Et un guard à gauche, ça se trouve. Je veux dire, si Schweizer ou autre fait pas l'affaire, ça se trouve. Donc, vraiment, moi, je pense qu'ils ont tout intérêt, sachant qu'il n'y aura pas de grand quarterback, à partir sur la ligne.
Ouais, je te rejoins. Donc du coup, au deuxième tour, qu'est-ce qu'on fait? On reste en attaque ou on passe en défense?
Ah ben on va passer en défense. On va profiter du fait qu'il y a beaucoup de cornerbacks intéressants. On vous a parlé dans les pastilles de Asante Samuel, de Greg Newsome, d'Israël Mukuamu. On vous a parlé aussi de Ifeatu Melifonwu. Moi, je vais vous parler de Elijah Molden.
Ah,
Alors,
c'est pas le même
Elijah,
profil, hein.
c'est pas le même profil. On n'est pas sur. Bah oui, toi t'aimes bien les gros, moi j'aime les joueurs un peu plus fluides, moi. J'aime les Asante Samuel et les Elijah Molden. Pardon, monsieur. Mais c'est vrai que c'est un joueur. Beaucoup disent ah, oh, c'est un joueur de slot, etc. Moi je ne comprends pas du tout. Moi je comprends pas du tout. C'est-à-dire que oui, ok, il jouait dans le slot, mais j'ai pas l'impression que son manque relatif de gabarit physique l'empêche de jouer à l'extérieur. Il ose, il est agressif, il est excellent. Tu parles de Jesse Horn comme d'un pot de colle souvent, bah lui aussi c'est un peu genre pot de colle quand même. Il identifie très bien le ballon, il va pas faire des tonnes d'interceptions mais beaucoup de déviations parce que vraiment il sait placer ses bras, c'est très intéressant. Donc pour le coup, moi je pense que ça va être un cornerback extérieur. Et que dès la première année, à minima, il est titulaire dans le slot et qui peut devenir une vraie alternative long terme à Washington.
Extérieur ou intérieur, de toute façon, j'ai envie de te dire, peu importe. Hein. Tu regardes les matchs et tu vois la plupart du temps, il y a au minimum 3, des fois 4, des fois 5 receveurs alignés. Il te faut des defensive backs de toute façon. Et Elijah Molden, il a prouvé sa valeur. Il a prouvé sa valeur en couverture, il a prouvé sa valeur aussi contre le run stop. C'est un très bon plaqueur malgré son gabarit. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de l'intelligence de jeu. C'est quelqu'un, j'ai aucun doute, qui s'adapte très facilement à NFL. Je veux dire, alors, je ne compare pas forcément les deux. deux, mais c'est un petit peu un profil à la Tyrann Mathieu, qui était vraiment un cornerback avec LSU, mais on le voit à NFL, il peut jouer un petit peu de partout, que ce soit nickel, que ce soit safety, que ce soit sur l'extérieur, que ce soit pour aller plaquer sur le run stop. Donc un joueur très précieux, oui, au deuxième tour, il est Jan Molden, ce serait un très très bon choix. Après, moi, je pensais peut-être aussi aux besoins de linebacker intérieur parce que ils ont un très bon front seven. Le seul petit manque qu'ils ont, c'est l'intérieur. De mémoire, c'est Bostic et Holcomb. Ce sont deux bons joueurs, mais pourquoi pas ajouter un autre profil? Tu vois, je pensais à Dylan Moses. Dylan Moses d'Alabama, c'était quelqu'un qui était vu comme un premier tour de la draft. Alors, il a eu une blessure. Du coup, il a perdu un petit peu d'explosivité. Mais il ne faut pas l'enterrer pour autant. C'est un très bon joueur avec une très belle intelligence de jeu, qui est un très bon plaqueur. En plus, on le voit, les Redskins, enfin, Washington, pardon, ils aiment beaucoup les joueurs d'Alabama. Jonathan Allen, Darren Payne, Robin Foster, etc. Donc, je pense qu'un joueur bien formé comme ça, Dylan Moses, au centre de leur ligne de linebacker, ça pourrait être pas mal aussi.
Non, je te rejoins totalement. C'est d'ailleurs, j'en parle un peu plus tard, mais c'est un vrai besoin pour cette équipe.
Oui, ben justement, c'est pour ça, transition toute trouvée. On va enchaîner sur ton choix du troisième tour, qui est d'ailleurs un linebacker intérieur, un joueur très athlétique, Jamin Davis de Kentucky.
C'est ça. Je vais en parler moi, parce que toi, t'arrives pas à être objectif sur ce joueur. Tu nous le mets au second tour, tu t'enflammes un petit peu, mais moi, je suis là pour te rappeler à la réalité. Donc, Jamin Davis de Kentucky, c'est un joueur extrêmement intéressant. Alors, en défense de course, c'est un joueur qui est vraiment excellent. Il est physiquement, il est agressif, mais agressif dans le bon sens du terme. Pas l'agressif un peu inutile. Lui, c'est vraiment intense, peut-être plus qu'agressif. Il a un très bon équilibre. Il ne loupe pas ses plaquages. Et alors ça, vraiment, c'est quand même la qualité numéro 1 d'un linebacker, c'est ne pas louper ses plaquages. Après, c'est pas un grand joueur en couverture de passe, ou en tout cas, pour l'instant, il ne nous a pas prouvé qu'il était excellent là-dessus, et ça reste un joueur titulaire une seule année, quoi. Ça reste une année titulaire et rien d'autre. Donc je pense que ce risque, en fait, ce doute au niveau de la couverture de la passe, et le fait qu'il ait été titulaire qu'un an fait qu'il sera au troisième ou quatrième tour. Mais ça reste un talent assez prodigieux.
Oui, c'est pour ça que moi je le vois partir plus haut, effectivement. Ouais. Donc du coup, au troisième tour, ce serait vraiment une très très belle affaire pour l'équipe de Washington, ouais, sans souci, quoi. Si on parle d'une friandise, un petit sleeper, donc on parlait des receveurs et on parlait de McLaurin et Curtis Samuel qui ne sont pas les joueurs les plus grands du plateau. Donc toi, du coup, au niveau des sleepers, tu nous as prévu un receveur qui lui, justement, il ne manque pas de taille. C'est Tamarion Terry de Florida State.
C'est ça, j'ai pris un joueur à la limite entre receveur et tight end. Tamarion Terry, ouais, j'avais eu l'occasion d'en parler, je crois, dans un ancien podcast. Pour moi, c'est typiquement la menace en zone rouge. C'est un joueur qui est grand, qui a des très bonnes mains. Alors, comme tous les joueurs de Florida State, il a perdu du crédit cette année. Alors que, honnêtement, c'est plus l'université qui est partie en lambeaux que les joueurs. Mais enfin, bon. Du coup, ça fera un heureux. Il est physiquement très dominant. Il était prévu beaucoup plus haut, hein, il y a encore un an et demi. Il a chuté, mais pour moi, ça reste une très belle alternative. Ça ne sera pas un receveur numéro 1 ou 2, mais quand tu es dans les 30 derniers yards, avoir ce joueur-là qui peut faire les réceptions en 3 et 5, avoir ce joueur-là qui peut sauter en fond de end zone et venir t'attraper le ballon, et ben, à côté de feu follet comme McLaurin ou Samuel, j'aime bien avoir cette sorte de tour de contrôle dans la end zone.
Ouais, je te comprends. Ouais. En plus, Tamarion Terry, il est grand, mais il va vite. Il va vite. Il va vite pour sa taille.
Ah oui, pour son gabarit, il va très vite, oui.
Ah oui. Moi, il me fait penser un petit peu, tu vois, dans le profil à l'ancien joueur des Steelers, Martavis Bryant. Un joueur, oui, qui était grand et qui allait très vite. Et donc, c'est ça, Tamarion Terry. Il a fait une saison, je crois que c'était 2018, où c'était extraordinaire. On se disait, waouh, lui, putain, il va tout fracasser. Bon, après, voilà, Florida State, il n'y avait pas de quarterback, pas de ligne offensive, c'était très difficile. Mais c'est quelqu'un qui, dans une bonne escouade, avec un petit peu de coaching, peut facilement devenir un receveur numéro 3, voire numéro 2 avec le temps.
C'est ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et toi, tu vas nous parler de Coastal Carolina. Ça fait au moins trois émissions que tu ne nous avais pas parlé de Coastal Carolina. Alors, faut
c'est ça.
Tu vas nous parler d'un defensive end, Taron Jackson.
mes chouchous avec la coupe de cheveux mulet. Donc oui, Taron Jackson. Pourquoi Taron Jackson? Parce que c'est un joueur qui est puissant, qui est productif, qui va au mastic. Washington, alors ils sont équipés sur les extérieurs avec Montez Sweat et puis Chase Young. Pas mauvais Chase Young. Mais il leur fait un petit peu de profondeur. Ryan Kerrigan est parti, donc je pensais, tu vois, renforcer un petit peu un edge. Taron Jackson, alors ok, il manque un petit peu de taille, c'est pour ça que ça sera un sleeper. Il n'est pas très grand, c'est pas le plus rapide non plus, mais ça fait trois saisons qu'il est hyper productif avec Coastal Carolina, et puis ne serait-ce que cette puissance. En gros, tu le vois jouer, tu penses joueur de football. Voilà, tout simplement.
Non, je suis assez d'accord. Et évidemment, si vous croisez dans les rues de Marseille ou aux environs un homme avec son t-shirt mulet contre mormon, ou mormon contre mulet, je ne sais plus dans quel sens c'était, évidemment, vous reconnaîtrez Jean-Michel. T'as pas la coupe mulet encore, ça c'est
non,
un progrès
non,
qu'il faut
ouais.
que tu fasses.
Mais... Bah, je l'avais quand j'étais petit, qu'il y avait Chris Waddle qui jouait, mais depuis j'ai arrêté, ouais, effectivement. Ouais. C'est, voilà. Bon, ben merci Victor, je crois qu'on a fait le tour là sur Washington.
Mais ouais, complètement, merci à toi. Et puis il nous reste, c'est quoi notre prochaine
Demain,
étape
on
oh,
se
c'est
retrouve.
Le soleil.
Voilà, exactement, le soleil de Marseille, mais qui sera à Miami. On se retrouve demain, les amis. Allez, bonne journée à tous.
Bonne journée.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.